etc. Une émission musicale de Radio Canus. C'est la deuxième partie, donc de 11h à midi. On est un petit peu en retard, il est 11h07. J'accueille dans les studios les quatre membres du groupe Feeling Waves. C'est ça, avec l'accent, on dit ça comme ça, on pense à comment?
Ouais, salut, c'est Falling Waves.
Falling Waves.
Salut. Salut, on y était presque.
Falling Waves, donc, dans cette deuxième partie de musique, etc. Donc, de ma gauche à ma droite, il y a Seb, le guitariste.
Salut.
Nicolas, qui est également guitariste.
Salut.
Il y a Romain, qui est au chant et au synthétiseur. Et donc,
bonjour.
Andy, le bassiste de Falling Waves.
Bonjour.
Falling Waves, donc, bonjour et bienvenue à Radio Canu. Tout au long de l'émission, on va écouter votre disque éponyme, Falling Waves. Il y a trois titres, mais qui sont assez conséquents, on va dire. Pour commencer, on pourrait peut-être faire une présentation de Falling Waves. Ça fait combien de temps que le groupe existe? Comment vous êtes connectés tous les quatre? L'historique de Falling Waves?
Alors, Falling Waves, c'est un groupe qui a commencé à exister sur, pendant le Covid, en fait, en 2020. Je viens du nord de la France, ça s'entend pas à mon accent, mais je suis originaire du nord de la France, et je suis arrivé ici en 2016 et avec l'envie de... Donc j'avais déjà un projet là-haut qui tournait pas mal, et avec l'envie de remonter un projet ici. Donc j'ai d'abord recherché la première ressource qui pour moi était un batteur. Et on s'est connecté avec François, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est le cinquième membre de Falling Waves. Et par nos réseaux respectifs, ensuite, on s'est connecté à Sébastien, avec qui j'avais déjà fait une répète au fil à Saint-Étienne, sur un autre projet. Et d'un autre côté, François a amené Romain, avec qui il avait joué dans le groupe 1982. On a tourné à 4, ou commencé un peu à 4 pendant un petit moment, et puis en 2021, octobre 2021, on a cherché un deuxième guitariste, parce qu'on ressentait vraiment le besoin d'avoir cette grosseur au niveau du son, et du coup on a fait quelques essais, et au final on a sélectionné Nico, qui est venu nous rejoindre fin octobre 2021, et on existe comme ça, sous la forme à 5, depuis cette date-là. En synthèse, si on pouvait résumer ce qu'est Falling Waves, grosso modo, c'est du rock progressif avec des influences post-rock dopé au grunge des années 90.
Vous voulez ajouter quelque chose? Le mieux, c'est peut-être d'envoyer le premier morceau du disque, non?
Allez, on y va. Ouais.
Et donc, on va écouter Bad Memory, si vous voulez bien.
Oui, ouais, c'est ça.
On écoute, on évoquera ensuite le morceau, et donc c'est Falling Waves sur Radio Canu.
Thank you.
Falling Wave sur Radio Canu avec le titre Bad Memories, extrait donc du disque Falling Waves. On peut évoquer ce titre donc qui fait 7 minutes 14, donc là on est parti loin avec vous là, Falling Waves. Le propos du morceau, de quoi ça parle, comment on met en place un morceau de cette envergure.
Question complexe et à la fois finalement très simple en fait. Ça rejoint un peu le mode de composition qu'on a. Aujourd'hui, c'est vrai que j'apporte une partie des morceaux. Donc j'ai un mini home studio à la maison sur lequel je commence à composer. Et ensuite tout le travail du groupe va être la partie arrangement et comment on va obtenir une synthèse et un accord de tout le monde pour obtenir un morceau au final qui plaise à tous, sur lequel on prend du plaisir à jouer. Sur le contenu en lui-même du morceau, Bad Memories, ben c'est, si on traduit littéralement, c'est les mauvais souvenirs. Et grosso modo, ça nous dit que ces mauvais souvenirs, en fait, ils nous servent toujours, si on arrive à en retirer quelque chose de positif, ça nous sert toujours à avancer dans la vie, quoi.
Et puis c'est le morceau aussi qui nous sert à ouvrir le set, en fait c'est le morceau d'ouverture, l'intro qu'on utilise et qu'on joue déjà depuis un certain temps pour démarrer le concert et mettre un petit peu tout de suite le public dans l'ambiance et leur présenter un petit peu l'univers globalement, et puis ensuite on les emmène dans d'autres destinations, voilà, pour leur faire une petite présentation de ce que la suite va être.
On peut parler de la scène, puisque Nicolas l'aborde. Votre scène dure combien de temps déjà avec des morceaux comme ça, comment...
ça dépend combien de temps on nous demande de jouer déjà.
Oui.
Parce que là, grosso modo, avec les compos, on a quoi, une dizaine de compos, hein, c'est ça. On a de quoi jouer. Allez, si on nous donne suffisamment de temps, on a de quoi jouer 1h15, 1h20, quoi. Mais généralement sur scène on est plutôt sur des sets un peu plus limités où on va jouer entre 40-45 minutes, ça dépend des festivals, des lieux qui nous accueillent, donc voilà, généralement c'est ça.
Et proposer cette musique là sur scène
disons qu'il y a des gens qui s'attendent pas forcément à trouver des morceaux aussi longs. C'est peut-être pas le format des titres que le grand public écoute peut-être généralement. En tout cas, nous, notre volonté, c'était de leur faire traverser aussi différentes humeurs, différents paysages à travers notre musique. Et c'est pour ça que, comme on dit, on parlait tout à l'heure, quand on est vraiment dans notre local de répète, on se met pas de limite. En fait, c'est-à-dire que le morceau évolue vraiment au fur et à mesure des propositions de chacun des membres. S'il y a quelqu'un qui dit, tiens, là, moi, j'ai une idée pour faire évoluer le titre, on peut essayer. Bon, on essaie tous ensemble, on voit ce que ça donne, on voit ce que ça apporte au morceau. Et parfois, on a des surprises. Des fois, on part d'un petit riff qui pourrait être bouclé en 2 minutes, mais avec les apports de chacun, en fait, on se retrouve avec des morceaux comme on en a dans notre set qui durent 9 minutes, quoi. Grosso modo.
C'est vrai qu'on s'éloigne, on s'éloigne très fortement du format radio, 3 minutes, 3 minutes 30. Après, on assume aussi le fait que c'est clairement un choix. Et alors effectivement, on n'est pas dans une démarche où on va avoir des morceaux courts, où le but ça va être de faire bouger les gens, les faire sauter sur place, etc. C'est peut-être un peu plus contemplatif, cérébral et tout ça, mais c'est un parti pris. C'est voilà, pour justement leur montrer cet univers, il faut temps de poser les choses, de les faire monter, de donner du relief et tout ça, et voilà. Nous, en tout cas, c'est le temps que ça nous prend pour installer les ambiances qu'on veut installer.
Ouais, alors le mot est vilain, mais en concert, vous devez percher tout le monde.
Si c'est le cas, on espère qu'ils arrivent à redescendre en toute sécurité, en tout cas, ouais, mais c'est un peu le but, ouais. Les faire voyager d'une certaine façon.
C'est ça, exactement. Mmh. C'est ce que j'allais dire. Falling Waves, il y a vraiment un rapport à la mer qui était plus ou moins conscient, qui est apparu, qui s'est renforcé au fil des morceaux qu'on a pu composer ensemble. Et le truc, c'est vraiment une incitation au voyage, quoi. Un côté contemplatif, un côté énergique aussi, qui permet de t'emporter ailleurs pendant le temps de la chanson, quoi. C'est juste ce qu'on souhaite apporter aux gens.
Oui, il y a un côté, on est du côté du rêve un peu, enfin carrément même.
Oui, 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 carrément.
Les voyages intérieurs, effectivement.
Et puis c'est vrai que, enfin, en tout cas, de notre côté, nous, quand on joue ces morceaux, quand on les interprète, on n'a pas la sensation d'avoir des morceaux qui durent une éternité. Ça nous semble vraiment passer à toute vitesse. Et notre but, c'est de faire en sorte que pour le public, ce soit la même expérience, qu'ils aient aussi cette sensation que, ah bah tiens, le morceau, il est déjà fini, alors qu'en fait, ils sont en train de l'écouter depuis 6 ou 7 minutes.
Oui, il n'y a pas de volonté de faire des morceaux je prends l'exemple de Bad Maurice de 7 minutes pour faire 7 minutes quoi. C'est nécessaire que le morceau tel qu'il existe un constat après.
C'est ça, c'est une histoire avec un début, un récit, une fin, et ben pour dire tout ce qu'on a à dire, faire découvrir aux gens tout ce qu'on veut leur faire découvrir, on prend juste le temps de le faire. Si ça dépasse 3 minutes, ben c'est pas grave.
Ça rejoint un peu ce qu'avait comme ambition, enfin ou ce qu'a comme ambition un groupe local avec je crois qu'ils sont de Bourg-en-Bresse, hein, les Fondras, avec Raoul Vignal, qui disait que finalement les Fondras c'est des motifs répétitifs, mais sans jamais se répéter. Voilà, c'est toute la difficulté du morceau, c'est on essaye de d'avoir effectivement une sorte de répétition, mais qui soit pas rébarbative non plus pour les gens, c'est-à-dire qu'on va, c'est une suite de répétitions qui va emmener quelque part.
Ouais, c'est des morceaux qui avancent.
Enfin, c'est ça, le terme exactement.
La voix vient à quel moment
Quand elle veut.
Quand elle veut, la voix.
Et quand elle peut.
Quand elle est nécessaire déjà, et puis...
Oui, bah après le texte souvent c'est Andy a une petite base de départ puisqu'il travaille beaucoup les morceaux en amont, donc il a déjà une idée du thème déjà qu'il veut amener dans la chanson. Après de la même manière on retravaille un peu les choses ensemble, on agrémente, on en rajoute un couplet, on en enlève. Et puis
on en enlève plus qu'on en rajoute, hein.
Ouais. Oui. Après voilà, moi je pose ma voix et puis les choses généralement se font de manière assez simple quoi.
Il y a aussi la partie clavier que tu apportes aussi, donc il y a tout un ensemble justement, ce côté harmonie, voix, clavier qui est super important dans ce qu'on fait. Hein. Et parfois la voix, et on a des morceaux totalement, totalement instrumentaux, qui sont aussi là des choix, parce que la voix était pas, on sentait pas la voix nécessaire, en tout cas.
Oui. Oui, oui.
Elle n'apportait pas grand chose et du coup le morceau est resté totalement en acoustique sur les mêmes formats, mais
on commence à ramener un peu des samples aussi parfois. Du coup ma voix s'efface et puis laisse plutôt la place à des samples de voix ou de choses comme ça quoi.
Et les samples sont envoyés à partir du synthétiseur?
Non, j'ai un ordi à côté.
Un ordi, d'accord.
Qui me permet de lancer tout ça.
Tu switches, comme on dit.
Oui, voilà, ouais. Bah, j'ai un petit peu une cathédrale autour de moi, mais bon.
On a fait un gros travail de scène, justement, avec l'accompagnement de l'empreinte entre Sainte-Sigolène et Monistrol, justement sur ça, sur la gestion de l'espace qu'on occupait chacun, et notamment, il y a eu un travail fait avec...
Oui, c'était pas évident au début. On avait du mal à me positionner sur scène, parce que j'ai deux claviers, un ordinateur à côté de moi. Avec autour deux guitaristes, un bassiste et une batterie. Oui, on a dû travailler un peu là-dessus. Maintenant, on a trouvé une formule qui nous est bien agréable, ou en tout cas, on se retrouve bien, et le public aussi, apparemment. Donc.
Oui, et puis, comme vient de l'évoquer Andy, c'est ça? Pardon. Oui, c'est nécessaire aussi pour les groupes de se faire accompagner quand même, pour avoir un regard extérieur. Et donc, comment ça s'est passé de votre côté, l'accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en quoi consiste un travail? Parce qu'il faut dire que les groupes quand même se font, sont pas. Il y a des gens dont c'est le métier qui aident les groupes, notamment sur le plan scénique, comme vient de le dire Romain, à se positionner, à améliorer leur travail. Voilà. Donc, comment ça s'est passé pour vous, cet exercice en fait?
Bah, ça a été un super exercice en tout cas. Nous on a vraiment pris du plaisir à le vivre. Alors c'est vrai que sur une année, enfin toute l'année dernière, on a eu plusieurs rendez-vous en fait avec des gens qui gravitent autour de la structure de l'empreinte là à Sainte-Sigolène, qui sont des professionnels du monde de la musique. et qui nous ont accompagnés sur déjà la reconstruction de notre son, parce que c'est vrai, quand on était dans notre petite salle de répète et qu'on allait jouer dans des salles, ben voilà, on avait une façon de construire notre son, de régler nos amplis, que eux, à l'empreinte, nous ont amené à gérer différemment. À dire, donc c'est vrai qu'on a une meilleure répartition du son, que ça soit au niveau des guitares, au niveau de la basse. Ensuite, en termes de travail scénique, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup fait travailler sur le placement, sur toutes les petites attitudes qui peuvent venir parasiter un set musical. Et c'est vrai que pour ça, ça a été très enrichissant, savoir comment se placer, comment bouger, puis surtout à quel moment bouger, parce qu'on avait un peu tendance, et moi le premier, à bouger un peu n'importe quand et n'importe comment, ce qui venait parasiter le visuel, l'aspect visuel en tout cas donné au groupe à ce moment-là.
Oui, on a beaucoup travaillé l'interprétation, quoi, éviter l'autoroute,
travailler les nuances, ouais, et tout
respecter
ça,
le récit de chaque morceau aussi par l'interprétation et nos mouvements sur la scène.
Et puis aussi, c'est vrai que ce qui a été vraiment très très important dans cet accompagnement, c'est que, alors, comme on vient de le dire, on a vraiment travaillé l'aspect, on va dire, l'aspect artistique, hein, le son, l'interprétation, le placement sur scène, le visuel, etc. Mais il y a aussi eu tout un volet, on va dire, de toutes les compétences ou les métiers un peu périphériques qui permettent aussi à un groupe de se développer, notamment tout ce qui est l'administratif, la communication, le booking, et voilà. Et toutes ces, c'est vrai qu'à la base, bon, on est des musiciens, des instrumentistes, donc bon, jouer, chanter, etc., on sait le faire, mais tout ce qui va à côté, trouver des dates, comment on présente son groupe sur les réseaux, comment est-ce qu'on fait du réseau, comment est-ce qu'on s'organise, etc., toute cette logistique périphérique, on va dire, elle nous a aussi été, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus avec les accompagnateurs de l'empreinte, et ça nous permet, voilà, d'avoir beaucoup plus d'outils à notre disposition, d'être plus performant sur tous les aspects autour qui nous permettent ensuite de trouver des dates, de jouer, de vendre un petit peu, de placer notre projet.
Vous voulez rajouter quelque chose sur cette session d'accompagnement?
La qualité, enfin moi j'appuie vraiment sur la qualité des intervenants dont on a pu bénéficier, quoi. Donc l'empreinte, c'est vrai qu'on avait un référent qui était Nico Durieux-Grébert, qui a été vraiment adorable.
Qu'on embrasse.
Qu'on embrasse très fort, ouais, qu'on remercie. On a eu Christophe
Vial
du Cri du Charbon, Emma Cordonneau pour la partie communication,
Cyril Balthazar,
Matt Auriol de Bakou.
Emma Cordonneau de 111.
De 111, ouais, exactement, la bassiste chanteuse de 111.
Je la salue.
Nous aussi, on la salue.
On lui salue.
Non, je vous ai coupé, pardon.
Tous. Non, pas de souci. Non, voilà, c'est donc, tu vois, effectivement, pour nous, le niveau des intervenants nous a fait aussi grandir dans la manière dont on appréhende notre projet, quoi.
Je vous propose qu'on poursuive en écoutant le deuxième titre de votre disque. Je vais vous laisser prononcer le titre. Donc
c'est Wasted Heart.
Ouais, merci beaucoup. Et donc c'est Falling Waves sur Radio Canu. Donc là on part pour 6 minutes et 8 secondes. Falling Waves donc sur Radio Canu. You wanted to. Yeah. Falling Wave sur Radio Canu, donc avec sur l'album éponyme, et donc c'est le titre.
Wasted Heart.
Vous voulez évoquer ce morceau, Falling Waves, hein?
Alors autant Bad Memory c'est le morceau d'ouverture, et ben celui-ci c'est le morceau de clôture. Voilà. Il y a le bonjour et il y a le au revoir sur le même disque. C'est voilà le morceau qui nous sert aussi à terminer le set et puis à essayer de dire au revoir au public, les embarquer dans une dernière déferlante, un dernier gros bain dans le bouillon. Et voilà, c'est en règle générale un morceau qui remue bien et qui donne un peu l'impression de machine à laver. Voilà, c'est une espèce de rouleau compresseur.
Ouais, on fait tourner, on laisse, en tout cas, les guitares vibrer à la fin, enfin, on laisse tous les instruments un peu en bordel comme ça, et c'est vrai qu'à ce moment-là, le public a l'impression que le concert est terminé. Alors, nous, on a une petite fin derrière qui arrive, hein, mais ils se disent, oh, bah, c'est fini, c'est chouette, donc là, tout le monde nous applaudit généralement, donc du coup, ça nous fait plaisir, et puis on en remet une petite couche pendant 1 minute 30, 2 minutes, quoi, grosso modo, voilà, ça nous permet de tenir le public un petit peu en haleine sur cette fin et de terminer, voilà.
Le petit plus Periglioni.
C'est ça. Et paradoxalement, c'est le titre aussi qui clôture notre set, donc comme le disait Nico, mais c'est un des premiers morceaux qu'on a travaillé vraiment en groupe, ouais. Et qu'Andy avait apporté et qui nous a plu tout de suite. Alors je sais pas si ça se sent comme ça, mais pour nous, ce morceau évoque des influences des Deftones, hein, typiquement rock des années 90, rock au sens large du terme, hein, mais ouais, c'est un peu le délire.
Moi, j'ai un souvenir un peu particulier de ce morceau parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, quand j'ai appelé donc Andy pour auditionner pour le groupe, il m'a dit bah écoute, je te fais passer 2-3 titres à travailler à la maison, puis tu viendras les bosser avec nous, on répète. Et donc il y avait ce fameux titre. Et quand je l'ai écouté, j'ai tout de suite accroché. Et en même temps, je me suis dit oulala, mais où il va le gaillard là. C'était super déstabilisant pour moi parce que je sortais d'une formation, ben je jouais avant dans 21 grammes. On était dans une démarche beaucoup plus directe, donc avec quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus linéaire, beaucoup plus droit, et là ça partait dans différentes ambiances, et j'ai vraiment fait un bond dans l'inconnu, mais ça m'a autant, enfin ça m'a intrigué dans le bon sens, dans le genre ça m'a pas fait peur, je me suis dit oulala, mais là on va voilà, il va y avoir du boulot et ça va me demander de revoir un peu ma façon de faire, ma façon de jouer, puis il a fallu aussi que je me creuse un peu les méninges pour arriver à retrouver comment il arrivait à jouer ces trucs-là d'oreille, et ça a été super super intéressant pour moi à travailler avant de rejoindre l'équipe.
Et juste la démarche de passer d'un groupe comme 21 grammes à un groupe comme Falling Waves,
c'est
21 grammes, faut le dire, c'est du punk, du punk, on peut dire que c'est du punk, ouais.
C'est plutôt
c'est
punk and roll,
punk, ouais.
Ouais. Bah en fait c'était plutôt un parcours de vie, disons que moi j'ai quitté 21 grammes pas du tout pour des raisons, on va dire, artistiques ou quoi que ce soit, ou de mes ententes, hein, c'est mes potes, et voilà, je les adore, et puis ben je les remercie encore de m'avoir gardé à leur côté pendant presque 7 ans. Mais en 2019, en fait, j'ai été papa de 2 petites filles. J'avais déjà un fils et donc j'ai eu des jumelles en plus, et voilà, moi ça devenait compliqué de concilier, on va dire, vie de famille et de concilier ça avec le développement du projet 21 grammes à l'époque, qui demandait quand même pas mal d'investissement. Donc j'ai fait le choix de leur dire au revoir et puis ben de les laisser continuer. Je me dis que voilà, c'était peut-être une bonne chose aussi, puisque maintenant ça continue toujours aussi bien. Et bon, après, quand les enfants ont grandi un petit peu, ben, je me suis dit que de toute façon ma vie musicale n'était pas finie, que j'avais bien envie de reprendre la route, de reprendre les instruments et de repartir dans une aventure. Donc bon, je me voyais pas non plus revenir dans 21 grammes, dans la mesure où ils avaient déjà aussi fait leur chemin. Et donc j'ai croisé la route d'Andy, Seb, Rome et Francis, et voilà, et j'ai recommencé une nouvelle aventure musicale avec Falling Waves.
Voilà. Et puis pour le garder, il a fallu qu'on le menace un petit peu quand même aussi, hein, parce que
Non, c'est vrai que l'accroche s'est fait quasiment instantanément, puisqu'on avait essayé plusieurs guitaristes avant, et la simplicité de Nico et sa manière de s'intégrer, mais d'avoir bossé des morceaux en amont, ce qui différait par rapport aux gens qu'on avait pu auditionner avant. Et nous, on savait à la fin de la répète que c'était lui. Lui, il savait peut-être pas encore, mais nous, on en était persuadés, en tout cas. Tu vois,
on l'a enfermé dans la salle de répète. Ouais.
On l'a frappé jusqu'à ce qu'il nous dise « Oui, ok, je vais jouer avec vous, d'accord. »
Arrêtez, s'il vous plaît. Et ouais, puis il y avait les influences aussi, hein, finalement, ouais, qui se rejoignaient avec les nôtres. Donc ça a nettement pesé dans la balance, quoi. Hein, donc.
On peut les évoquer, ces influences de chacun, si vous voulez bien, vos références musicales.
Et il y en a, hein.
Faut 2 heures d'émission là, si tu veux.
C'est vrai que
on va essayer de condenser.
Pour ma part, alors c'est vrai qu'on évoque beaucoup le rock des années 90 avec notamment le mouvement grunge et voire un peu néo-metal, parce qu'on parlait des Deftones tout à l'heure qui sont une de nos influences également. Mais tout ce qui est alors grunge, pas forcément Nirvana, même si pour moi ça a été une influence forcément en tant que musicien. Mais tout ce qui est Smashing Pumpkins, hein, également.
Soundgarden,
ouais, tout à fait. Alors on est loin du courant progressif, hein, en tout cas, mais c'est vrai que c'est marrant, en fait, les influences qui nous ont permis de poser les bases du groupe Falling Waves, ouais, et de voir un peu comment on a intégré tout ça.
Je pense qu'on retrouve l'énergie de cette époque-là dans les parties électriques de Falling Waves, tu vois. C'est là.
Carrément. Et puis après, avec Andy, on écoute un peu de post-rock aussi de notre côté.
Oui.
Parce qu'on aime bien, voilà, tout ce qui est un peu atmosphérique, avec des grosses lignes de guitare doublées de chorus, de délai. Ça nous fait voyager un peu. Et du coup, c'était un petit peu l'intention aussi avec Falling Waves d'apporter cette touche post-rock. Alors, je ne sais pas si elle se ressent vraiment, s'il y en a qui peuvent vraiment la ressentir, mais en tout cas c'était tout de suite quand on a évoqué le projet, c'était un peu ça, c'était camper un peu sur nos influences rock, vraiment rock des années 90, et puis avoir ce côté planant aussi qu'on peut trouver dans le post-rock.
Et puis aussi un autre truc, moi, qui m'avait vraiment séduit dès le départ dans le projet, c'est que moi je suis un peu belgophile, et j'aime beaucoup, et c'est un truc qu'on a en commun avec Andy, en bon nordiste qu'il est, et voisin de nos amis belges, bien entendu, il a baigné dans cette culture-là, des groupes comme Ginzou, Girls in Hawaii, Salwax, tout ça, et une très belle scène rock en Belgique, et moi j'adore aussi ces sons-là, et c'est pas forcément évident de trouver des gens qui sont vraiment très fans de ça, et c'est un truc sur lequel moi j'ai tout de suite accroché.
Ah, peut-être les influences de Romain aussi, parce que je le voyais dans son coin, mais
je me sens beaucoup plus mainstream, quoi. Par à vous, ouais, moi je suis Radiohead, j'ai beaucoup écouté Muse à une époque aussi, et puis tout ce qui est rock des années 70, quoi, les Supertramp, Queen, voilà.
Ouais, et puis, justement, le rock aussi, prog vient aussi des années 70,
ouais, sûr, ouais,
70,
ouais.
Donc.
Et ces influences-là, justement, je trouve, parce qu'on les sent dans ton timbre, dans ton jeu, etc., elles se diluent super bien dans le reste des influences communes. Hein,
Oui, et puis c'est ce que vous disiez aussi, c'est du post-rock, les morceaux sont assez longs, mais il y a l'agressivité du rock des années 90 qui ressort au sein des morceaux. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça vient mordre ensuite.
Qui fait aussi la patte de Falling Waves.
Ouais, carrément. Oui, c'est vrai qu'après on a des moments planants, mais on a des morceaux qui sont plus bruts de décoffrage, hein, aussi un petit peu plus droits, et on a besoin de ça, nous, en tout cas aussi pour évacuer toute l'énergie. Donc pour nous, en tout cas, l'univers qu'on défend, il nous correspond tout à fait, parce qu'on oscille entre calme et tempête, et puis c'est soit on a des morceaux qui vont conjuguer ces deux éléments, soit on a des morceaux qui vont être un peu plus francs du collier. Bon, qui ne seront pas forcément moins longs, hein, mais en termes de durée. Mais en tout cas, ouais, ça nous représente assez bien. Ouais.
On est un peu comme des dentistes de la musique, tu vois. On essaye de te mettre d'abord tranquille, au calme, avant de te défoncer la mâchoire.
Voilà. Petite anesthésie avant la roulette.
Vous voulez parler de l'enregistrement du disque qu'on écoute depuis le début, comment vous avez travaillé en home studio, en studio, comment on met en boîte des morceaux?
C'est du pur DIY. Moi j'ai un petit peu de matériel, une carte son, micro
et des compétences.
On essaye, hein. Ça fait quelques années que j'enregistre mes projets et donc je crois que c'est le schéma un peu classique un peu des groupes qui s'enregistrent aujourd'hui, quoi. J'ai toujours été celui qui s'y collait, et là, du coup, quand il a été question de faire un premier EP, je leur en ai fait part, et puis donc on est parti là-dessus, et donc on a enregistré ça dans une salle de répète, tout simplement, en calfeutrant un petit peu, en mettant des rideaux sur les murs, des absorbeurs, et voilà, quoi. Donc ça s'est mixé à la maison ensuite.
Et concrètement, vous avez travaillé comment? Enfin, les morceaux sont écrits, du coup, ça vous permet de faire piste par piste.
Alors là, sur le cas de ce premier enregistrement, on a fait prise live. Hein.
D'accord.
On a fait prise live. Là, l'actualité, bon, c'est on a un morceau sur lequel on travaille. Là, pour le coup, on a fait tout en re-re, c'est-à-dire qu'on a tout fait prise à piste par piste.
Chacun son tour.
Et d'ailleurs, donc ça permet de parler un peu d'actualité. D'ici fin de l'année, là, on va essayer de sortir un clip. Fin de l'année, peut-être début 2025. Voilà, donc un peu plus produit, quoi. On va passer un petit peu plus de temps à travailler notre son dessus, l'esthétique aussi de la vidéo. Voilà, mais donc pour ce premier EP, donc tout a été fait maison. Voilà.
Bonne expérience pour tout, pour les quatre membres les cinq, enfin, il y a un absent, je rappelle.
Oui, mais c'est toujours super confortable de faire ça à la maison, on va dire, d'arriver dans un lieu, un local qu'on connaît, avec les gens qu'on connaît, de faire ça entre nous. C'est bien aussi parfois de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour justement avoir un peu ce recul, cette hauteur par rapport au son, par rapport au morceau, par rapport au projet, etc. Mais de le faire comme ça en interne entre nous, c'est aussi une bonne façon d'assumer, de marteler vraiment notre identité, nos goûts, notre vision, notre volonté de montrer ce qu'on montre et ce qu'on décrit dans le morceau. Et c'est super, super intéressant. On a vraiment l'impression, en plus, voilà, d'avoir un produit qu'on a fait nous tout seuls, de nos petites mains, voilà, sans aide de personne. Et c'est ce qu'on peut faire de plus personnel.
Et le fait de fixer des morceaux à un instant T, après ils sont amenés à évoluer sur scène par la suite, ou les morceaux bougent, ou
Oui, sur scène, effectivement, on a une manière de les interpréter qui est pas la même. Attention, on retrouve toujours du Falling Waves, hein. Tu vas pas retrouver un morceau qu'on va jouer en trash musette d'un coup, comme ça, d'un seul, en se disant, bah, tiens. Mais voilà, effectivement, encore une fois, remettre de la nuance, de l'intensité, savoir jouer sur l'interprétation du morceau en live, effectivement, c'est très important. Et il y a des moments, il y a des morceaux qu'on a fixés, notamment un morceau qui est sur l'EP qui s'appelle Waterhammer, qu'on cherche aujourd'hui à retravailler vraiment de fond en comble ensemble, parce qu'il correspond plus en fait à ce qu'on avait en tête à cette époque-là, quoi. Autant les autres sont vraiment restés quand même dans une forme relativement stable, celui-là on sent qu'il y a peut-être mieux à faire qu'un rythme ternaire dessus. Je sais pas si on va le passer après, mais non.
On passe plutôt live.
Mais effectivement, ce morceau-là, effectivement, typiquement, ça fait partie des morceaux qu'on a à l'agenda à retravailler sur la forme.
Ouais. Et puis sinon, dans les actualités, voilà, on se penche sur l'enregistrement d'un album, hein, forcément, parce que on aimerait que ça soit la suite un peu de notre projet. Pour l'instant. C'est à l'état de projet, hein, puisque du coup, bah, il faut le financement. On aimerait avoir une qualité sonore qui dépasse ce qu'a pu nous faire Romain sur cet EP là. Et pour ça, ça demande forcément par du travail en studio et aussi des moyens, du temps et des moyens financiers, on va dire, qui soient adéquats à ce projet. Et c'est ce qui nous manque concrètement là pour l'instant. Mais on y travaille. On espère que l'horizon 2026, on arrive à publier quelque chose.
Vous avez su les titres, les titres sont déjà écrits.
Ouais, carrément. Ouais. On a de quoi faire. Après, c'est juste un choix de titres qui seront incorporés sur l'album, en tout cas. Donc voilà, ça c'est après, c'est en discussion. En tout cas, on est assez au clair entre nous sur les titres qui seront intégrés directement sur l'album. Et puis on a d'autres, voilà, faut qu'on discute un peu plus entre nous.
Ouais, et puis donc vous me disiez aussi hors antenne, vous cherchez à jouer éventuellement en dehors de
votre... En dehors de Saint-Étienne, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu de la chance de... Ben, on a eu de la chance déjà de faire de la musique depuis un certain nombre d'années, et donc d'avoir rencontré par conséquent un certain nombre de personnes qui gravitent autour du monde de la musique sur Saint-Étienne. Ça nous a amené à jouer sur de très très belles scènes, hein. On a joué sur la scène du film, qui est la SMAC locale, où on a fait carton plein avec 280 entrées, et ça c'était vraiment une expérience géniale pour nous. En tout cas, on a aussi eu l'occasion de jouer sur d'autres scènes, sur des festoches, par exemple le Festival des Brumes là au mois de juillet, où on a ouvert le festival pour Matmata, qui était la tête d'affiche. Donc ça c'est quand même des expériences qui nous ont fait grandir et qui ont été simplement superbes pour nous en tant que musiciens amateurs. Maintenant, ben voilà, les scènes stéphanoises, on les connaît, même si on les a pas toutes faites, hein, parce qu'il y a toujours des scènes qui sont beaucoup plus petites, dans lesquelles on va bientôt jouer. Par exemple, on va jouer donc le 26 octobre, on a un concert à la MJC de Monistrol qui est le concert de restitution de notre accompagnement avec l'empreinte.
Non, pas vraiment. C'est un concert de soutien.
C'est un concert de soutien, mais qui est en lien. Je déborde un petit peu, mais c'est plutôt. Et du coup, après, on aura voilà un autre concert à l'Orbital à Saint-Étienne et à la Gueule Noire également de Saint-Étienne le 9 novembre.
Avec 21 grammes d'ailleurs, ouais. le 31 octobre.
Et c'est vrai qu'on aimerait bien venir jouer à Lyon si on veut de nous. En tout cas, on sent qu'on potentiellement on aimerait bien tenter notre chance. En plus, Lyon, c'est quand même la capitale culturelle au niveau de la région. On parlait tout à l'heure. Mais après, voilà, partout où on voudra de nous, que ce soit à Clermont-Ferrand, à Chambéry, à Grenoble, on saisira les opportunités. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez aimé ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous contacter.
Pour vous contacter, pour vous suivre, pour écouter votre musique, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se quitter sur un dernier morceau live, ouais. Mais on va faire votre communication bien comme il faut. Bon, pour les personnes qui voudraient justement communiquer avec vous, vous suivre, écouter votre musique, donc je me répète, mais...
Eh bien, on a premièrement le Bandcamp, hein, qui héberge notre premier album éponyme, le 3 titres. Alors, on nous retrouve ensuite sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous cherchez Falling Waves, vous trouverez, et à chaque fois, vous aurez un lien Linktree qui va vous rapporter vers un centralisateur en fait où vous aurez toutes les informations de contact, mail, numéro de téléphone pour le booking, des vidéos, des contenus, voilà, tout est centralisé sur Linktree et sur chaque média ou sur chaque média qu'on utilise en fait, on revient vers cette entité. Sinon, pour nous écrire, c'est fallingwavesband@gmail.com.
Tout simplement.
Je mettrai les liens sur le podcast, sur les blogs de Radio Canu, la rubrique musique, etc. Donc c'était musique, etc. La deuxième partie, donc de 11 à 12 avec Falling Waves. Falling Waves, merci beaucoup. Je pense qu'on aura le temps de se redire au revoir.
Merci à vous.
Merci Guillaume.
Et on va se quitter, donc peut-être présenter le morceau. Alors c'est un live. Hein.
Ouais, c'est live au fil, donc à Saint-Étienne, le 1er décembre 2023. Le titre s'appelle Contrôle d'elle, et encore une fois, vous allez voir que c'est vraiment un morceau typiquement Falling Waves, quoi, parce que du coup, il y a des passages plutôt calmes et d'autres un peu moins.
Falling Waves. Voilà, donc c'était Falling Waves avec un morceau live enregistré au fil à Saint-Étienne, c'est bien ça ?
Exactement.
Oui. Voilà, donc musique, etc. avec Falling Waves. Rendez-vous sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc. pour le podcast. Musique, etc. Sa orthographie MUSIK-ETC-6. Donc, c'est également disponible sur les audioblogs d'Arte Radio. Musique, etc. MUSIK-ETC-6. Fait beaucoup de musique, etc. Tout ça, comme j'ai souvent. Et donc, j'étais en compagnie donc, pour la deuxième partie de Falling Waves. Falling Waves, merci beaucoup. On vous retrouve sur Facebook, sur Bandcamp.
Sur Instagram. Sur... Exactement, Insta, Bandcamp et Facebook, ouais.
Voilà, donc musique, etc. avec Falling Waves. Merci beaucoup, Falling Waves.
Merci à toi.
Et à présent, c'était musique, etc. Et à présent, je vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu.